Aujourd'hui, on avance encore dans l'Ancien Testament. On arrive presque à la fin. Hein? Il reste trois livres. Les trois derniers prophètes de l'Ancien Testament. Et puis, dans ces trois derniers prophètes-là, on change de situation historique, de contexte historique. Et puis, on est un petit peu plus tard et on approche la fin de la période de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, environ 400 ans avant Jésus. Et puis, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin dans le livre du prophète Agée. Et puis, mais juste avant d'aller dans le texte, dans la leçon, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Que le Seigneur puisse nous donner un bon temps en Église ce matin et qu'il puisse nous parler par sa parole. Donc, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour tes bontés qui se renouvellent envers nous chaque jour, chaque matin. Seigneur, on peut compter sur tes compassions. Tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur, et peu importe où, ce qu'on peut vivre, on peut se réfugier en toi, trouver notre joie en toi, trouver notre consolation en toi, quoi qu'il arrive. Et si c'est possible, Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi et aller vers toi pour être secouru dans nos besoins, c'est à cause de l'œuvre que tu as accomplie pour nous en Jésus-Christ. Seigneur, on ne veut pas oublier que notre relation privilégiée avec toi est possible grâce à toi, seulement par ta grâce et par ta miséricorde, et on veut se rappeler ce matin l'œuvre de Jésus dans nos vies. Merci pour ton pardon, Seigneur Dieu, merci pour ton amour envers nous. Ma prière, c'est que tu puisses remplir nos cœurs de ton esprit ce matin, afin qu'on puisse être attentif à ce que tu as à nous dire, à l'enseignement de ta parole, Seigneur. Qu'on puisse pas être des auditeurs oublieux, mais plutôt qu'on la mette en pratique et que ça puisse servir à ta gloire, Seigneur. Viens nous parler, viens nous bénir ensemble et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, comme je disais, on termine les prophètes. Et les prophètes, il y avait un mandat particulier de la part de Dieu en relation avec la loi que Dieu avait révélée. Au tout début, par Moïse, Dieu a mis par écrit la loi, les origines de l'univers, de l'humanité, la loi, comment le peuple d'Israël devait se comporter dans la terre promise. Et puis, à travers les années, on connaît que le peuple de Dieu qui avait dit « Oui, on va marcher avec l'Éternel, on va obéir à sa loi, on va marcher avec lui, on s'engage à ça », qu'à travers les générations, ça s'est perdu. La crainte de l'Éternel a disparu presque complètement du peuple de Dieu. Et par sa grâce, Dieu a suscité des prophètes à différents moments dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël, dans le but de rappeler la loi que Dieu avait donnée, et rappeler l'alliance aussi. L'alliance que Dieu avait établie avec son peuple. Et cette alliance-là, c'était quoi les termes de cette alliance-là? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? C'était quoi les termes de l'alliance? C'était qu'est-ce que le peuple devait faire et qu'est-ce que Dieu allait faire en retour? Je vous laisse répondre, là. On peut participer un petit peu. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi les termes de cette alliance-là?
Servir Dieu avec un cœur sincère.
OK. Servir Dieu avec un cœur sincère. OK. Ça, c'est excellent. Il y avait ça. D'autres éléments que vous vous souvenez, des fois, c'est dit autrement. C'est quoi les termes? Ça, c'est une des choses. Servir avec le Seigneur avec un cœur sincère, oui. OK. OK. Josué 6-8. Michée 6-8. OK. Qu'est-ce que ça dit? Je t'ai fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Servir l'Éternel avec un cœur sincère. Dieu avait donné sa loi et avait établi une alliance avec le peuple d'Israël. Il dit, « Je vais être votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous serez saints car je suis saint. » Et dans un sens, Dieu, à travers ça, comment le peuple allait être pour vivre, c'était pour être un peuple mis à part pour servir l'Éternel et servir Dieu. Et quelle était la promesse de Dieu en retour? Oui, Gérard.
Oui. Une mention qu'il y a un paradoxe là-dedans.
OK.
Parce que Dieu a demandé à l'homme de circoncire son propre cœur.
Oui.
Okay? Mais c'est quelque chose qui était impossible.
Oui. OK?
C'est
exactement.
Que, hey, père, je ne suis pas capable de circoncire mon cœur.
Oui.
Et David, on sait qu'il a dit de créer en moi un cœur nouveau.
Oui.
Un esprit nouveau.
Oui.
Mais quelle est la plus grande des promesses du nouveau, de la Nouvelle Alliance? C'est je vous donnerai un cœur.
Un cœur nouveau.
C'est
sinon
oui. La main de l'homme.
Oui.
Dieu.
Oui.
Alors, c'est là qu'est le paradoxe.
Oui.
Dieu demandait d'être servi avec un cœur sincère.
Oui.
Mais c'est lui qui rend le cœur sincère.
Exactement. C'est ça. Les exigences de Dieu étaient que le peuple soit saint. Mais comment allait-il être saint? C'est par l'œuvre que Dieu allait faire dans leur vie individuellement pour qu'ils puissent être en mesure de servir Dieu. Et la loi est là, et comme on va voir dans Galates, la loi était un prédécesseur pour pointer vers Christ, qui était là pour nous montrer que c'est impossible finalement pour un homme d'être juste en obéissant à la loi, parce que celui qui pêche contre un seul commandement pêche contre toute la loi. Mais Dieu avait quand même donné cette alliance-là. Vous allez être mon peuple, je vais être votre Dieu. Et si vous obéissez au commandement de cette alliance, je vais vous bénir. C'était une promesse que Dieu avait faite. Si vous gardez vos cœurs attachés à moi, je vais vous bénir. Donc, le peuple, c'était l'initiative de Dieu de provoquer dans le cœur du peuple par son esprit une obéissance, mais aussi, c'était la responsabilité du peuple d'obéir à Dieu. Et donc, les prophètes étaient là pour rappeler la loi, rappeler l'alliance, pour ramener le cœur du peuple à l'Éternel. Et Dieu va susciter dans des temps où on peut dire que le peuple était désobéissant, des prophètes pour ramener le cœur de son peuple. Et là, on se trouve avec les derniers prophètes, les trois derniers prophètes qu'on voit dans nos Bibles, Agée, Zacharie et Malachie. Et on voit que Agée, Zacharie et Malachie ont été écrits, selon ce qu'on voit dans le contexte du livre, vers la fin du temps de révélation dans l'Ancien Testament, entre autres, après l'exil à Babylone. J'étais avec vous il y a deux semaines et on parlait de Dieu qui avait annoncé à travers Habacuc, et vous le voyez, vous l'avez vu avec Sophonie aussi, Dieu avait annoncé la destruction du royaume du sud et que le peuple serait amené en captivité à Babylone. Il avait prophétisé ça à travers ses prophètes et entre autres à travers Jérémie qui avait dit, vous allez être déporté, vous allez être amené à Babylone, ça va durer un certain temps, mais vous allez revenir. Et là, on se trouve avec ces prophètes-là, les trois derniers prophètes, après cette période d'exil, où on va revenir à Jérusalem pour rebâtir la ville, rebâtir le temple. Et là, on va voir plus en détail qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et comment le peuple de Dieu a besoin de revenir encore une fois à l'Éternel et de consacrer son cœur à Dieu. Il arrive souvent dans nos vies, il nous arrive souvent d'être occupés puis d'être préoccupés avec des choses qui sont parfois très légitimes. On se préoccupe de, par exemple, du bien-être de notre famille. Par exemple, je suis préoccupé que mes enfants aient de quoi manger, qu'il y ait quelque chose sur la table pour manger tout à l'heure, pour l'heure du dîner. Je suis préoccupé par le fait que j'aie une maison confortable où ce qu'ils peuvent dormir, puis l'hiver, on peut se réchauffer, on peut être à l'aise. Mais parfois, on se préoccupe peut-être un peu trop des choses, de certaines choses dans nos vies qui nous amènent à oublier ce qui est plus important. Ces choses-là sont légitimes, mais à un moment donné, on arrive à un point peut-être où on dévoue tellement d'énergie à ces choses-là qu'on oublie l'essentiel. Et puis, on veut faire des bonnes choses, on veut être au service pour le Seigneur, puis même moi, avec le peu d'expérience que j'ai dans le ministère, j'apprends que même le ministère, des fois, avec les tâches qu'il y a à faire dans l'Église, les projets qu'on veut mettre de l'avant, et là, on se donne, on oublie des fois l'essentiel, que c'est, je suis en train de servir, pas par mes propres forces, mais j'ai besoin de me confier dans l'Éternel pour pouvoir servir. J'ai besoin de me tourner vers Dieu. Et là, je me dévoue corps et âme, mais pas avec la bonne force, pas avec la force de l'Esprit de Dieu. C'est des bonnes choses, mais je néglige l'essentiel. Et on voit que le peuple de Dieu, en quelque sorte, dans le livre d'Agée, en était arrivé un peu à ce point-là. Un point où ils se préoccupent de choses, de leur confort, qui font en sorte qu'ils oublient l'essentiel, qu'ils oublient la gloire de Dieu. Et dans le livre d'Agée, c'est ce qu'on voit, entre autres, le peuple avait appliqué son cœur à son confort. Au retour de l'exil, il avait vécu des confrontations, des affrontements qui les avaient empêchés puis arrêté la construction du temple. Et ça faisait 15 ans que le temple, la construction était arrêtée. Et le peuple de Dieu, Dieu vient parler à son peuple et dit, vous êtes en train de travailler, on va voir ça, vous êtes en train de travailler à votre confort, mais qu'est-ce qui arrive de ma maison? Qu'est-ce qui arrive de mon temple, là où je veux que ma gloire habite? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et là, on va voir ça dans Agée, entre autres au chapitre 1 et 2, on va voir aussi la signification de ce temple-là. Mais juste avant d'aller un peu plus dans le détail, dans le message de Agée, je veux juste introduire un peu le livre avec le thème. Premièrement, qu'est-ce que le thème de Agée? Puis pourquoi je vous donne le thème? C'est que c'est pour que vous ayez là, l'idée principale qui gouverne le livre. Quand on connaît l'idée principale puis la raison pourquoi le prophète parle, ça nous aide à mieux comprendre après ça les détails. Donc, dans une ligne ou dans une phrase, si on peut résumer le message du livre d'Agée, son thème, c'est que Dieu réveille le cœur de son peuple afin qu'il construise le temple et qu'il puisse les délivrer de ses échecs et de sa pauvreté en lui accordant la prospérité et la bénédiction. Encore une fois, le peuple a besoin que son cœur soit réveillé pour se mettre à l'œuvre pour Dieu afin d'expérimenter la bénédiction. C'était les termes de l'alliance que Dieu avait donnée. Et le prophète vient pour rappeler ça. Et puis, au niveau de la date de rédaction, comme je le mentionnais, c'est dans le retour de l'exil, fait qu'on peut situer la rédaction du livre d'Agée aux environs de 520 avant Jésus-Christ. Le retour, on va voir un peu plus en détail les années du retour de l'exil un peu plus loin. Et l'auteur, évidemment, le livre nous mentionne à plusieurs endroits que c'est Agée, le prophète, qui est l'auteur. C'est Dieu qui parle à Agée et Agée donne le message à Israël. Un prophète qui était du temps de Zacharie et on va voir aussi Esdras, qui n'était pas un prophète, mais un scribe, de ce temps-là, du temps du retour de l'exil à Babylone. Et la structure du livre se divise en quatre messages que Dieu veut donner à son peuple. Premièrement, l'exhortation à rebâtir le temple. Deuxièmement, la gloire future du temple. Troisièmement, les conditions de la bénédiction. Et quatre, le triomphe de l'Éternel. Et ça va toujours en grandissant vers la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas importante pour le peuple au début du livre. Et Dieu révèle qu'il va révéler sa gloire et ça va en progression, en progressant jusqu'à la fin. Et on va même voir des indices dans ce livre qui nous parle de la venue du serviteur de l'Éternel, de Jésus-Christ et du salut qui allait être apporté aux nations à travers Jésus-Christ. Donc, comme je le disais, le livre d'Agée se situe après le retour des Juifs de la captivité à Babylone. La conquête de Juda, la destruction de Jérusalem a eu lieu en 586. Mais Dieu avait dit, il avait déjà promis, vous allez partir, mais vous allez revenir. Combien de temps allait durer la captivité selon la promesse de Dieu? Vous vous souvenez? Dans Jérémie, combien de temps la captivité allait durer? 70 ans, OK, c'est ça. Donc, 70 ans, à partir du moment où le peuple commence à être déporté aux alentours de 620, mais Jérusalem a été complètement détruite en 586. Et au cours de cette période-là, pendant qu'il était en captivité pendant les 70 ans, je vais rappeler un petit peu la vision du prophète Daniel que Daniel avait eue. Il y avait les Babyloniens qui étaient là, puis ils ont amené en captivité à Babylone. Mais pendant le temps de l'exil, il y a eu un changement dans l'empire babylonien est tombé, et c'est les Mèdes et les Perses qui ont pris la place. Et les Mèdes et les Perses avaient une façon de fonctionner qui était un petit peu différente des Babyloniens. Les Babyloniens amenaient en captivité. Les Mèdes et les Perses étaient moins durs envers les peuples et ils leur permettaient de rester plutôt que de les chasser de l'endroit où ils vivaient. Ils leur permettaient de rester là, mais ils étaient sur une gouvernance Mèdes et Perses. Donc, et là, ce qui va arriver, c'est qu'à travers le roi des Mèdes et des Perses, entre autres le roi Cyrus, il va accorder au peuple de Dieu qui est à Babylone de retourner pour rebâtir la ville. Et on voit ces détails-là, entre autres dans Esdras. Et j'aimerais ça peut-être garder un doigt dans Agée. Et puis on va aller lire certains passages dans Esdras qui nous expliquent un peu plus le contexte historique. Donc, Esdras étant un livre historique, on va aller voir qu'est-ce qui se passait à cette époque-là au retour de la captivité. Esdras 1, les versets 1 à 5. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Et là, Dieu va susciter dans le cœur de Cyrus, un roi qui même pas fait même pas partie du peuple de Dieu, le roi de l'Empire des Mèdes et des Perses, ce désir de rebâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et il va dire au peuple de Dieu, ceux qui sont dans, c'est qui les restes, c'est qui ceux qui sont dispersés puis qui sont au milieu de nous, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui veulent retourner à Jérusalem puis rebâtir la maison? Et puis il va même dire que les peuples autour vont fournir tout ce qu'il faut pour bâtir le temple et bâtir la maison de Dieu. Et donc, c'est le début, dans le fond, de l'envoi des Juifs qui retournent à Jérusalem. Et un peu plus loin, Esdras 3, les versets 8 à 11, on voit à ce moment-là le début de la construction. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils de Juda, les fils Enadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillent à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et donc, la construction du temple commence environ 2 ans après leur arrivée. Mais il arrive quelque chose qui fait en sorte que le peuple va se décourager et va arrêter la construction. Et on voit ça entre autres dans Esdras chapitre 4, avec l'hostilité qu'il y a avec les royaumes, les peuples qui sont là. Il faut comprendre que pendant la captivité, vu que Jérusalem a été complètement détruite, il y a d'autres peuples qui ont profité de cet espace libre pour venir prendre cet endroit-là, venir vivre autour de Jérusalem et même prendre des maisons de cet endroit-là. Et lorsque le peuple de Dieu revient, ben là, c'était aux autres peuples, c'était plus à eux. Et donc, ils ont à comme confronter les autres peuples. Mais le roi Cyrus, le roi de l'Empire, leur avait donné la permission, donc ils ont la grâce de pouvoir y aller et de le faire. Mais Il y a comme de l'hostilité parce qu'il y a de la jalousie qui commence à se créer à travers les autres peuples. Et dans Esdras 4, verset 4, ça dit « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. » Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et là, le peuple arrête la construction parce que les autres peuples les empêchent. Il y a de l'opposition et le peuple arrête. Et cet arrêt-là va durer pendant 15 ans. Jusqu'au moment où, chapitre 5, verset 1 de Esdras, on voit quelqu'un qui arrive et que Dieu utilise pour que les travaux reprennent. On voit, chapitre 5, verset 1, « Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. » Et là, on va aller voir c'était quoi le message d'Agé à ce moment-là. Et on va regarder ensemble Agé au chapitre 1. On va lire ensemble les versets 1 à 11. Pour commencer et voir exactement c'est quoi qui se passe à ce moment-là, 15 ans après le début de la construction, 15 ans après que la construction soit arrêtée, puis le temple n'est pas terminé dans le fond. Agé, chapitre 1, à partir du verset 1. « La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shéaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. » Et là, on voit vraiment dans ce passage-là que le peuple avait oublié la construction du temple. En réalité, il s'était attardé davantage à leur propre confort. Il dit il est en train de mettre leurs efforts dans leur propre demeure, dans leur maison, en ayant eu la confrontation des autres peuples. Ils s'étaient mis à l'ouvrage dans leur maison, mais ils avaient négligé la maison de l'Éternel. Et là, l'Éternel leur dit par Agé, « Vous êtes en train de travailler fort, vous semez, puis vous récoltez rien. Vous buvez, puis vous n'êtes pas désaltérés. » Vous essayez de vous vêtir, puis vous n'avez pas chaud. Puis, dans un sens, tous les efforts que vous êtes en train de faire pour votre confort, ça ne porte pas fruit. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Dieu va dire deux fois, dans le verset 5 et verset 7, « Considérez attentivement vos voies. Où est votre cœur? Parce que vous m'avez oublié. Vous avez oublié ma maison. Vous avez oublié ma gloire. » Que la gloire de Dieu habite au milieu de vous dans le temple, vous avez oublié que c'est important ça. Et vous êtes mis à l'œuvre, vous avez oublié l'essentiel pour vous consacrer à des choses qui ne sont pas mauvaises, mais vous avez dévoué tout votre cœur là et vous avez oublié l'Éternel à travers ça. Et l'Éternel suscite Agé pour dire « Considérez attentivement vos voies ». Et il parle au peuple afin qu'ils reprennent les travaux de la construction du temple. Et au verset 8, il dit « C'est le temps maintenant, vous dites que ce n'est pas le temps? Vous dites que ce n'est pas le temps de se mettre à l'œuvre pour Dieu, mais moi je vais vous dire que c'est le temps maintenant. Vous allez monter sur la montagne, vous allez amener du bois là-bas, vous allez commencer à construire. Parce que c'est le temps maintenant que ma gloire habite au milieu de vous. C'est le temps que je sois glorifié au milieu de ce peuple-là. » Et lorsqu'il dit au verset 8, il dit « J'en aurai de la joie. Bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie. Je vais être glorifié. » Et en quelque sorte, qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? La gloire de Dieu quand son peuple, son cœur est tourné vers Dieu, il cherche la gloire de Dieu. Dieu bénit son peuple. Et donc Dieu, en quelque sorte, reprend son peuple sévèrement. Vous êtes d'impatates, vous êtes complètement éloignés, vous n'êtes pas là. Dieu fait grâce à son peuple, il veut son bonheur. Il veut le bonheur de son peuple, il ne veut pas que son peuple souffre. Mais il dit, pour que vous puissiez avoir le bonheur, le vrai bonheur, ça va se trouver lorsque vous allez rechercher ma gloire. Si vous cherchez votre bonheur ailleurs que dans la gloire de Dieu, ça ne mène à rien. Je mets ma main pesante sur vous, ça ne mène à rien. Si vous voulez être béni, tournez vos cœurs vers Dieu. Et il faut que le peuple se tourne vers Dieu pour faire de la gloire de Dieu sa poursuite ultime. Et le peuple doit arrêter de chercher son propre confort et doit vraiment se mettre à l'œuvre pour Dieu. Et donc, on voit à la fin du chapitre 1 que la crainte de Dieu va s'emparer des dirigeants du peuple et qu'ils vont se mettre à l'œuvre. Et on va lire les versets 12 à 15. C'est un petit livre, fait qu'on va probablement passer à travers ce matin, lire les passages. Alors la fin, qu'est-ce qui se passe après que Agé parle et que le peuple a reçu ce message-là? Verset 12, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Pourquoi le peuple s'est réveillé finalement? Lui qui est endormi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple se réveille et se mette à l'œuvre pour chercher la gloire de Dieu? Dieu est intervenu. C'est Dieu qui est venu réveiller son peuple. Il dit, « Hey, vous autres, là, où c'est que vous êtes? » Et c'est par son esprit, on va le voir dans le chapitre 2, il dit que l'esprit de Dieu est au milieu d'eux. Et par son esprit, le Seigneur va réveiller le cœur de son peuple pour qu'il se mette à l'œuvre. Et celui qui est à l'origine de ce réveil-là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui réveille le cœur de son peuple pour qu'il se tourne vers lui et cherche la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui suscite le réveil dans le cœur de son peuple, afin qu'il cherche premièrement la gloire du royaume de Dieu. Et résultat, qu'est-ce qui arrive? C'est un peuple qui se met à l'œuvre. Il les a réveillés par son esprit, mais ils ne sont pas juste restés comme ça. Ils sont passés à l'action. Donc, ils se sont mis à l'œuvre et le résultat, c'est un peuple qui s'est mis à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Et le peuple va se mettre à la construction du temple et ça ne vient pas sans des nouveaux affrontements avec les autres peuples. Esdras 5, les versets 3 et 5, on voit plus loin que quand ils reprennent, après le message d'Agé, qu'ils reprennent la construction, les autres peuples sont encore là pour apporter la difficulté. Mais qu'est-ce qu'ils font cette fois-ci? L'Éternel est avec eux, il le dit. Verset 13, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous. » Alors, ils persévèrent, ils continuent et ils vont mettre la gloire de Dieu en premier dans leur vie et rechercher la gloire de Dieu. Et le peuple va Dieu va leur accorder la bénédiction pour que le peuple persévère et résiste et persévère dans les travaux. Donc, ça, c'est le premier chapitre. Le premier message d'Agé, c'est réveillez-vous, vous avez oublié ma maison, mettez-vous à l'œuvre et construisez le temple. Et là, on va voir quand même que le thème, ce thème-là de la gloire de Dieu dans le temple, et le temple lui-même va se développer dans le chapitre 2. Et dans le deuxième chapitre d'Agée, on voit plutôt qu'un seul message, on voit trois messages. Et on le voit entre autres dans les versets 1 à 9. Et dans cette section, on va voir que Dieu va comparer la gloire actuelle du temple avec la gloire du temple passé. Et on va voir qu'est-ce qui va exactement se passer avec la gloire du futur temple. Ça va être une gloire plus grande. Et on va lire les versets 1 à 9 du chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et là, le point, c'était, on a lu tantôt dans Esdras qu'il avait commencé la construction du temple. Mais lorsqu'il commence à construire le temple, il réalise que la gloire du deuxième temple n'est pas aussi grande, peut-être probablement par les constructions, par toute la richesse qu'il y avait dans le premier temple. Il y avait une gloire qui était associée au temple par la richesse et tout ce qu'il y avait, la construction en or, puis les instruments qu'il y avait. Et là, le temple, on commence à le bâtir, et puis il n'y a pas la même gloire. Et il y en a même dans Esdras, on le voit, qui vont commencer à pleurer parce qu'ils ont connu le premier temple. Puis le deuxième, c'est pas comme avant. Ça arrive des fois, hein? Des fois, on a connu quelque chose auparavant, puis on dit, comme c'était mieux dans le temps. Mais voici ce que Dieu va dire. Ça me semble mieux dans le temps. Mais il dit, attends un peu, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Si vous avez été infidèle, moi, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et lorsqu'il dit au verset 9, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et là, Dieu veut rassurer son peuple et dire, vous avez connu ça dans la gloire avant? Attendez de voir ce que je suis en train de vous préparer. Je suis en train de vous préparer un temple avec une gloire encore plus grande. Maintenant, lorsqu'on regarde un peu les écrits du Nouveau Testament, on voit que la gloire du temple était quand même assez grande, parce que même, vous vous souvenez d'un épisode à un moment donné, Jésus est avec ses disciples, et ses disciples font remarquer la construction du temple. Ils disent à Jésus, « Wow, regarde Seigneur, c'est beau ça! » Il dit, Seigneur Jésus dit, je vous le dis, il ne va pas rester une pierre là-dedans qui ne fera pas renverser. Et où la gloire du deuxième temple si Jésus dit « je vais venir détruire ça » Et on sait qu'en 70 après Jésus, après sa mort, sa résurrection, après qu'il soit parti, l'Empire romain a détruit Jérusalem, entre autres sous Néron en 70. Et la question qu'on peut se poser, c'est la suivante, c'est « en quoi le second temple a été plus glorieux ?» Si Dieu promet que le temple, le deuxième temple, serait glorieux, plus glorieux que le premier, en quoi il l'a été? Et on voit que, entre autres, le temple, dans l'Ancien Testament, c'était l'endroit où la gloire de Dieu habitait. Et dans Ézéchiel, vous avez probablement, si vous vous souvenez, dans Ézéchiel, à un moment donné, la gloire de Dieu quitte le temple et s'en va, et c'est là que le peuple va être déporté à Babylone. La gloire de Dieu habite plus au milieu de son peuple. Et la gloire du temple, c'est pas tant sa construction, mais le fait que Dieu habite là. C'est le fait que Dieu habite au milieu de son peuple. C'est ça la gloire. Oui, la construction est belle, puis on montre que Dieu a béni, on a eu la bénédiction de Dieu. Mais la vraie gloire du temple, c'est quand Dieu habite dans son temple. Et là, on voit au verset 9, la promesse de Dieu qui va venir dans ce temple-là. À la fin du verset 9, il dit, « C'est en ce lieu que je donnerai la paix. » On va tourner ensemble dans Jean 1. En fait, vous l'avez peut-être dans vos notes, si vous avez pris les notes. Dans Jean 1, on lit ceci. « Et la parole a été faite chair. » Jean 1, verset 14. « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Hébreux 1, les versets 2 et 4 disent, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. » Et qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième temple? C'est que Jésus a marché dans ce deuxième temple-là. Et en Jésus-Christ, Dieu est venu lui-même dans ce temple-là pour, si on revient à Agé 2.9, apporter la paix. Apporter la paix à son peuple et aux nations. Et Jésus est venu habiter dans ce temple-là. Et Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte même de sa personne. C'est Dieu lui-même, Dieu le Fils qui vient et qui se fait connaître, qui vient habiter au milieu de son peuple, mais qui se fait connaître pour qu'on puisse le connaître lui et voir sa gloire et le connaître personnellement et vivre dans la gloire pour l'éternité. Donc le point ici, c'est Dieu va apporter la paix dans le deuxième temple et cette paix-là est venue par Jésus-Christ. Plus loin, on voit que le thème du temple dans le Nouveau Testament progresse. Et on voit que le Fils de Dieu a manifesté sa gloire, puis il a inauguré une ère nouvelle. Ou plutôt que d'habiter dans une construction, dans un bâtiment fait de main d'homme, Dieu vient habiter avec son peuple, son Église, en habitant dans les cœurs par son Esprit. Dans Éphésiens 3, versets 21 et 22, on lit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » En lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu en esprit. Donc, l'Église, les saints rassemblés ensemble, sont une habitation de Dieu en esprit. Et là, la gloire du second temple, c'était que Jésus allait venir, mais Jésus inaugure une nouvelle alliance où Dieu habite plus dans un temple en construction, une construction, mais dans les cœurs. Il habite avec son peuple, individuellement. Ça veut dire que je suis plus obligé d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu, pour rencontrer Dieu. Dieu habite dans mon cœur. Je suis dans mon sous-sol, sur la rue Terrasse-Masson à Saint-Hubert, puis je suis avec Dieu dans sa présence, à cause de son esprit qui habite en moi. Et ça, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. C'est que Dieu habite avec son peuple maintenant dans son cœur, dans le cœur des croyants. 1 Corinthiens 6, 19, ça dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? » Et donc, le point ici, c'est dans Éphésiens 3, il dit qu'il habite au milieu de son peuple, au milieu de son Église, mais il habite aussi dans le cœur de chaque croyant. Et en Jésus-Christ, maintenant, on est le temple de Dieu parce qu'il a donné son Esprit qui habite en nous. Puis on vit davantage ces bénéfices de la présence de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, Dieu habite dans nos cœurs. Et encore une fois, ce temple-là, de Dieu qui habite dans nos cœurs, c'est encore une fois un temple qui est temporaire. Parce qu'on voit à la fin, lorsque Jésus va revenir, lorsqu'on va être dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, un temple, un nouveau temple, encore une fois. Et ce temple-là, il n'y en aura plus finalement. Parce que le temple, c'est Dieu qui habite au milieu de son peuple, toujours nous, pas juste dans une présence en nous, puis on ne le voit pas, mais il va être là, puis on va vivre, On va le voir face à face. On va être avec lui pour l'éternité. Et le temple, ça dit qu'il n'y en a plus dans Apocalypse 21, parce que Dieu est lui-même et le temple. Je ne vis plus point dans Apocalypse 21. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Le Dieu Tout-Puissant est son temple. Il n'y avait pas de temple parce que c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui éclaire la ville? La gloire de Dieu. Plus besoin d'un soleil parce que dans la présence de Dieu, Dieu l'éclaire. Dieu éclaire la ville. Dieu avec l'agneau qui est son flambeau. Et qu'est-ce que ça dit? Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Verset 7 de Agée 2. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Les trésors des nations ont probablement contribué à la construction du deuxième temple, mais les trésors des nations, c'est les gens eux-mêmes qui marchent pour la gloire de Dieu dans l'éternité. Les nations ont apporté leurs trésors. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a ouvert la porte à toutes les nations pour un salut disponible pour tous. Et on voit à travers ça, c'est Dieu qui se glorifie. C'est la gloire de Dieu d'avoir ce privilège de venir. Moi, je ne suis pas un juif, mais en Jésus-Christ, j'ai reçu cette grâce-là de vivre la présence de Dieu dans ma vie, puis de pouvoir vivre pour la gloire de Dieu, puis d'avoir cette assurance, cette espérance qu'un jour je vais être avec lui, puis je vais vivre dans sa présence. Je ne méritais pas ça, mais Dieu l'a accompli. C'est par grâce qu'il l'a accompli. Et gloire à Dieu pour ça. C'est quand on réalise, peut-être des fois on s'éloigne de Dieu, puis on réalise, on perd de vue la gloire de Dieu, puis des fois on a besoin de revenir à ces moments où on a goûté la gloire de Dieu dans notre vie. On a besoin de revenir et se mettre à genoux, Seigneur, dire un peu comme c'est Moïse, je pense, qui disait, Seigneur, montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Parce que je sais que quand je vois ta gloire dans ma vie, quand je te vois à l'œuvre, c'est là que mon cœur est heureux. C'est là que je suis comblé de bonheur parce que c'est toi mon bonheur. Puis quand je vois ta gloire s'accomplir autour de moi, même au milieu des épreuves, quand je vois ta gloire se manifester parce que tu me consoles au milieu de l'épreuve, c'est ça que je veux goûter. Parce qu'il n'y a rien comme ta consolation. Il n'y a rien comme ta gloire, puis je veux voir ta gloire. Et dans un sens, il faut revenir à Dieu lorsqu'on a perdu de vue la gloire de Dieu dans notre vie. Il faut revenir à lui et dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Puis Dieu répond à la prière. Il n'est pas loin, il est là, il est présent dans nos vies. Puis il nous, c'est comme s'il nous ouvre les yeux des fois, comme il a fait avec le peuple. Il a réveillé l'esprit du peuple pour qu'il dise, hey, la gloire de Dieu, c'est important, là, faut se mettre à l'œuvre. Mais j'ai besoin, moi aussi, des fois, de me faire réveiller par Dieu, puis de crier à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un réveil dans ma vie parce que ta gloire est plus aussi importante pour moi qu'avant. Puis je veux voir ta gloire dans ma vie parce que c'est là que j'ai la vraie joie. Le troisième message qu'on voit dans le chapitre 2 de Agée, on voit que dans les versets 10 à 19, que le peuple n'avait pas toujours la bénédiction, n'avait pas goûté la bénédiction parce qu'il avait souillé le temple en ayant triché dans la construction du temple. Je veux juste résumer rapidement qu'est-ce qui se passe. Et il y en a qui vont, on va voir ça dans Agée 2, les versets 16 et 17, en fait 16. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Et quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y avait que 20. Fait que il y avait de la tricherie. Dans un sens, j'ai commandé 20 blocs de ciment, puis j'arrive, j'en ai juste 10, parce qu'il m'a volé finalement. Puis il y a eu du vol de fait dans la construction du temple. Nous, on a une construction, puis... au Québec, on entend beaucoup parler ces temps-ci, mais une construction assez d'envergure qui a coûté très cher à l'État, le stade olympique. Hein? Puis vous avez entendu les histoires de tricherie qu'il y a eu là-dedans. Mais le peuple de Dieu est en train de tricher dans la construction du temple. Puis Dieu va dire, vous m'avez souillé, puis vous avez toujours pas vu la bénédiction à cause de ça. Et finalement, à la fin de cette section-là, verset 19, « Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. » Et encore une fois, je pense que Dieu fait grâce à son peuple. Le peuple est un cœur tortueux, mais Dieu va faire grâce, il va répandre sa bénédiction. Et comme on l'a vu précédemment, en Christ, la gloire de Dieu est venue, a été manifestée. Puis cette grâce-là, c'est celle d'être purifié de nos souillures. Et le peuple, avec leur mauvaise attitude, leur cœur mauvais, souillait le temple. Et qu'est-ce qui arrive en Jésus-Christ? C'est qu'on est un des temples purifiés maintenant, parce que Dieu répand sa bénédiction en Jésus-Christ. On peut être lavé entièrement de nos impuretés, de nos péchés, et maintenant on peut entrer dans la présence de Dieu parce qu'on est entièrement pur à cause du sacrifice parfait accompli en Jésus-Christ. Le peuple ne méritait pas d'avoir cette grâce-là d'être purifié, mais Dieu va dire, verset 19, « Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Vous êtes tout croche, mais je vais vous bénir quand même, parce que je vous aime, vous êtes mon peuple. » Et dans sa grâce, oui, c'est ça. OK, c'est bon, c'est une bonne question. Madame Paradis dit, tu dis qu'on est pur, mais je fais encore plein de péchés. Hey boy, je vous comprends. Je vous comprends, parce que ça m'arrive moi aussi. Hein? Oui, non, c'est ça. Purifier ne veut pas dire parfait. Purifier veut dire paraître pur devant Dieu. Et si je me présente devant Dieu puis je suis pur, c'est pas à cause de ma pureté à moi. C'est à cause de la pureté de Christ qui m'a été donnée. Christ m'a lavé par son sang, mais en même temps, sa justice, lui qui avait obéi parfaitement à toute la loi, à mes données puis est à moi. Fait que ça fait en sorte que je suis tout croche, mais devant Dieu, je suis pur à cause de l'œuvre de Christ. Fait que maintenant, je veux grandir dans ma pureté, je veux grandir dans ma piété, je veux pas pécher contre l'Éternel. C'est mon désir, c'est de le glorifier, mais c'est pas basé sur moi. Hein?
Dieu veut ma sainteté.
Oui, Dieu veut votre sainteté, mais en même temps, c'est pas basé sur votre sainteté que vous êtes procuré vous-même qui vous voit pur, mais sur celle que Christ vous a donnée. Oui.
C'est intéressant qu'est-ce qu'elle mentionne.
Oui.
Je voudrais mentionner un point important. C'est qu'on a une partie en nous qui est la chair, qui ne sera jamais serviable à Dieu. Et on doit la crucifier.
Oui.
Tous les jours, Jésus a dit,
oui.
De sa croix,
oui.
Et renoncer à sa vie tous les jours.
Oui.
Mais il y a une partie en nous que le Seigneur dit, l'enfer ne
contre son Église, oui.
C'est l'homme nouveau qui est en nous.
Oui.
Et qui nous transporte de gloire en gloire à
Oui.
Et ça, c'est là qu'est sa gloire. C'est Jean qui dit il ne peut pas y avoir une source d'eau impure, une source d'eau pure.
Non, c'est ça.
À l'intérieur de
Oui, de la même source, okay. C'est ça.
Donc, avant, on pratiquait le péché.
Oui.
Ne pratique plus le péché à cause de l'homme nouveau.
Oui, c'est ça.
Et cet homme nouveau-là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le corps de Christ. C'est l'Église dont les portes de l'enfer ne prévaudront point contre.
Exactement.
Et
oui.
En 70, ils ont détruit le dernier temple de main-d'œuvre. Mais personne ne peut détruire ce temple-là qui est la construction de Dieu
qui
fait d'une main parfaite.
Exactement. C'est
et ça. On peut le méditer à tous les jours. On n'arrivera jamais à la pleine conclusion d'une compréhension parfaite.
Non, c'est ça. Oui.
Par contre, on peut maturer.
Oui, on peut grandir. Ça, c'est ça qui est important. Je pense c'est de réaliser que cette sainteté-là est possible maintenant par l'œuvre de l'Esprit dans ma vie, puis par justement, j'ai revêtu l'homme nouveau, puis dans le fond, comme Paul va dire dans Galates 2, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi maintenant. Maintenant, je vais avoir tendance des fois à vouloir reprendre le contrôle. Mais j'ai la capacité maintenant, ce que j'avais pas avant, j'ai la capacité maintenant de laisser Christ vivre en moi, de refléter Christ et de vivre pour la gloire de Dieu, ce qui n'était pas là. Et on a besoin, comme tu dis Gérard, de grandir là-dedans, puis chaque jour de dire, tasse-toi Alex, laisse Christ vivre en toi, puis laisse la gloire de Dieu briller par Jésus-Christ en toi. Oui, juste une dernière, oui, oui.
Avec le point important, c'est oui. Que c'est Jean qui nous dit, si toutefois, à cause du vieil homme, nous péchons,
oui.
Okay, nous avons
un avocat auprès du Père.
Oui. Et à cause du nouvel homme, okay, je vous transformerai, vous pourrez confesser,
oui.
Et je vous pardonnerai, et vous serez purifiés. Mm-hmm. C'est là qu'est notre marche.
Oui.
Notre marche, c'est qu'on ne peut pas s'approcher devant Dieu avec un vieux
avec le vieil homme. Non, c'est ça.
Mais on peut s'approcher devant Dieu avec un cœur pur.
Oui.
Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu.
Oui, exactement.
C'est
bon. C'est bon. Fait qu'en même temps, comme tu sais, on veut laisser le nouvel homme vivre, mais si je pêche, j'ai un avocat qui m'aide à purifier tout ça, puis à marcher pour Dieu. Oui, Mme Paradis.
Dans ma tête à moi, là,
oui.
Je pêche à chaque jour.
Oui. Mm-hmm. Mm-hmm.
En tout cas. Et quelqu'un, qui se dit chrétien, m'a dit, ben moi, il y a beaucoup de journées que je ne pêche pas.
Okay.
Qu'est-ce que tu lui aurais
répondu?
Okay. Moi, je pêche à chaque
jour. Oui, oui, oui.
Est-ce qu'il existe des personnes chrétiennes, authentiques, nées de nouveau, qui ne pêchent pas à chaque jour?
OK, c'est une bonne question. Ce que je veux vous dire, c'est dans un sens...
Peut-être toi,
Alex. Non. Oh boy. Oh boy. Non, prenez pas moi un exemple, s'il vous plaît. Mais moi, je ramène quand même aux Écritures. Tu sais, Paul, il disait qu'il était le pire des pécheurs. Il a reçu la grâce. Puis, je veux dire, l'apôtre Paul, là, s'il y avait quelqu'un qui observait la loi puis qui était, tu sais, droit... Fait que moi, j'ai de la difficulté. Puis des fois, je peux dire, est-ce que je suis capable de ne pas pécher pendant une minute? Oui. Pendant deux minutes, peut-être. Puis glorifier Dieu dans ma vie, oui, je pense. Fait qu'est-ce qu'il y a une journée où on ne peut pas pécher? Ça, je trouve ça long un peu, selon ce que je connais. Mais je pense que c'est possible d'en arriver à des périodes de temps où je suis pleinement pour la gloire de Dieu. Mais j'ai de la difficulté à... Je veux pas calculer ça. Je veux pas calculer, dire, j'ai fait combien de péchés aujourd'hui, là? Non, quand je m'approche de Dieu, Dieu révèle mon cœur. Je vois certains endroits où j'ai besoin d'être purifié ou de confesser certaines choses au Seigneur. Je le fais. J'essaie pas de jouer une game de comment je pourrais dire, d'être. Je veux vivre pour la gloire de Dieu puis pécher le moins possible, mais je veux pas m'attarder à les compter, en quelque sorte. Mais c'est ça. Oui.
Ça n'existe pas des personnes qui ne pêchent pas. Oui,
ben, je peux pas vous le dire parce que je connais pas les cœurs. Puis dans un sens, dans ses actions, peut-être qui pêchent pas. Mais je sais pas. Tu sais, je pense que nos cœurs parfois nous amènent à des endroits où. Fait que je sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question. Mais j'aime mieux détourner ça puis dire, je suis parfait en Christ maintenant. Je cherche à vivre avec le nouvel homme. Puis dans un sens, lorsque je pêche, Seigneur, montre-moi là où je m'en aperçois même pas. Puis c'est ça un peu ça, je dirais. Il y a des journées où je pêche pas. Ce que David disait, c'est sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, puis montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, parce que même je peux ne pas être conscient d'un péché que j'ai fait, puis j'en ai fait un. Fait que d'affirmer que j'ai pas péché dans une journée. Oh boy, peut-être qu'il y en a que Dieu m'a pas mis en lumière, puis j'ai péché de plusieurs façons, puis j'ai juste besoin d'être réveillé. Fait que comment je pourrais dire, j'éviterai un peu ce langage-là, c'est un peu ça, mais de travailler à la gloire de Dieu. Oui, Dolores.
Je veux juste dire une chose.
Oui.
Je pense qu'il y a juste le Seigneur Jésus qui est parfait.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a juste lui qui est parfait, puis on peut à cause de lui, vivre pour la gloire de Dieu, s'éloigner du péché. Mais j'aime mieux me voir toujours comme un pécheur, dans un sens qui a besoin de sa grâce pour vivre pour sa gloire. Puis c'est ça. Fait que quand je me présente devant Dieu, si j'ai souvent, ça, j'ai pas besoin de chercher bien longtemps, l'Esprit de Dieu me met le doigt sur le bobo assez vite. Mais si des fois je me dis, ouais, qu'est-ce qui était... Je prie le Seigneur, montre-moi où j'ai manqué. Puis j'aime mieux... chercher à ce que Dieu me sanctifie que d'affirmer « Ah, j'ai vécu une journée parfaite aujourd'hui. » En tout cas, vous comprenez un peu l'idée, là. Je pense que je cherche davantage à ce que Dieu fasse son œuvre dans ma vie que de compter combien j'ai fait de péchés ou quoi que ce soit. J'ai tendance à dire « J'aime mieux m'approcher de Dieu dans l'humilité. Lui connaît mieux mon cœur que moi-même. » Fait que j'aime mieux m'approcher de lui dans l'humilité et dire « Seigneur, peut-être que j'en ai pas vu, montre-moi-les. » Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, juste pour terminer, à la fin du chapitre 2, on va voir qu'il va y avoir la gloire du royaume. Dieu annonce la gloire d'un royaume futur, la gloire du royaume d'Israël, mais qui va arriver, entre autres, à travers, il va dire Zorobabel dans le texte, mais on va le lire ensemble, versets 20 à 23. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, « J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. » En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Et encore une fois, dans le passage, on comprend que Zorobabel, lorsque il dit, le Seigneur dit, je vais te prendre, Zorobabel, tu es mon serviteur. Puis, dans un sens, je vais renverser les royaumes, je vais détruire la force des royaumes, je vais tout anéantir les royaumes. On n'a pas vu ça, jusqu'à même à la venue de Jésus, parce que les disciples vont dire dans Acte 1, il y a une conversation avec Jésus avant son ascension, et les disciples vont dire, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël quand tu vas revenir? Est-ce que c'est-tu à ce moment-là? Parce que là, le Messie est venu, mais on n'a pas vu le royaume rétabli. Et le Seigneur, il dit, c'est pas à vous de connaître ces choses-là. Et donc, cette idée-là de renverser les trônes des royaumes, de détruire la force des royaumes, ça va venir comment? Ça va venir à travers la lignée de Zorobabel. Et dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, versets 1, 12 à 15, on voit la généalogie de Jésus. Et Jésus est un descendant de Zorobabel. Et comme on dit, le trône de David va durer éternellement. David était comme... De la lignée de David va venir le Messie, le trône du Messie va durer éternellement. Et de la même façon ici, un peu, on peut comprendre que c'est de la lignée de Zorobabel que va venir le serviteur de l'Éternel dont le prophète Ésaïe parle. Et le serviteur de l'Éternel, Ésaïe 53, c'est celui qui a souffert, c'est celui qui a été meurtri pour nous. Et dans un sens, c'est là... Au moment où Jésus va revenir, où ce que les trônes vont être renversés, tous les royaumes vont être anéantis, il va y avoir un seul peuple, un seul royaume. Et c'est Jésus lui-même qui règne éternellement sur toutes les nations. Il règne déjà, mais on ne voit pas son règne entièrement accompli encore, parce qu'il y a encore du mal, il y a encore des nations, il y a encore des royaumes, mais un jour Jésus va revenir pour rétablir son royaume définitivement. Et à ce moment-là, toute la terre va être pleine de sa gloire, le royaume de Dieu va subsister à jamais, puis il ne sera jamais détruit. Et ça, c'est la gloire de Dieu manifestée pour l'éternité. Et un petit prophète, deux chapitres, mais quand on comprend ce petit prophète-là à travers les lunettes de l'Ancien du Nouveau Testament, comment tout ça s'est accompli et comment ça va s'accomplir, on trouve des trésors, n'est-ce pas? On va se courber dans un mot de prière. On va demander à Dieu sa grâce. Vous avez quelques questions d'application sur la page 6. J'invite à justement à les lire pour qu'on puisse vivre réellement cette joie qu'on a dans le Seigneur, qu'on puisse trouver notre bonheur en l'Éternel puis dans son royaume. Chercher premièrement son royaume. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole est vraie. Tu es fidèle à ce que tu as déclaré, Seigneur. Tu es fidèle parce que tu as accompli en grande partie tout ce qui est écrit dans Agé. Mais on attend encore l'accomplissement définitif, total, où un jour, Seigneur Jésus, tu vas revenir et tu vas régner éternellement et on va régner avec toi. Seigneur, On trouve que parfois nos cœurs ne sont pas assez sensibles à ta gloire. Combien souvent, Seigneur, le piège est là de chercher ma propre gloire et de chercher ma satisfaction dans ce que les autres pensent de moi, plutôt qu'en toi seul, Seigneur. Et ma prière, c'est que ça puisse être ta gloire qui brille par moi et que je puisse faire de ta gloire le précieux trésor de ma vie. Seigneur, aide-nous, viens en aide. Viens-nous en aide, Seigneur, afin qu'on puisse être rempli de ton esprit constamment, ne pas éteindre ton esprit, mais de bénéficier et de goûter cette grâce que tu habites dans nos cœurs maintenant pour ta gloire, Seigneur, et qu'on puisse réellement chercher à te glorifier et à faire de toi l'objet de notre joie. Seigneur, tu dis dans Matthieu 6, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Seigneur, lorsqu'on met nos efforts à des choses qui sont légitimes, comme la nourriture et le vêtement, on oublie ta gloire. Et Seigneur, on a besoin de ne pas s'inquiéter. En cherchant ta gloire, tu dis, toutes ces choses vous vont être données par-dessus. On a besoin de croire et mettre foi en ta parole pour que lorsqu'on cherche notre bonheur en toi, tu nous combles de tes bénédictions. Sois béni, bénis notre temps ensemble dans la louange, dans l'enseignement de ta parole encore et que ça puisse, nos vies soient des instruments de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.